Bonsoir à toutes et à tous. Pâtes, riz, papier toilette, la grande distribution est dévalisée et les ventes sur Internet s'envolent. Quels sont les ressorts de ces achats de précaution? Y a-t-il effectivement des risques de pénurie, au moins sur certains articles, et lesquels viendraient à manquer si le confinement devait durer? Cette épidémie va-t-elle durablement marquer notre chaîne alimentaire, notre réseau de distribution? Agriculteurs, commerçants, marins pêcheurs, sites internet, qu'est-ce qui va changer dans notre façon de consommer, dans notre façon de faire nos courses? C'est le sujet de cette émission de C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir. Alimentation, courses, livraison, à quoi faut-il s'attendre? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP, auteur du Gâchis français, c'est aux éditions Talendier. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef au service économie de l'Express, l'Express qui consacre sa une cette semaine aux soignants, avec ce titre sur le front. Et puis, comme d'habitude, en visioconférence, on retrouve Flavien Neuvy, économiste spécialiste des questions de consommation et directeur de l'observatoire CTLM. Et enfin, Pascal Ebel, directrice du pôle consommation et entreprise au Crédoc, auteur de « Comportement et consommation alimentaire en France », c'est chez Lavoisier. Jean-Marc Daniel, d'abord, toute cette frénésie de consommation dont on va parler, est-ce que vous diriez, vous qui êtes un spécialiste de l'histoire économique, que c'est typique des périodes de guerre, ces achats-là?
Oui, c'est assez typique de ce genre de période. Et en fait, il y a deux grandes périodes pendant lesquelles on voit des rushs vers les magasins. Il y a effectivement les guerres, et puis il y a les périodes de mouvements sociaux un peu durs. En mai 68, il y avait eu effectivement, là aussi, non pas des pénuries, mais des tensions sur l'huile et le sucre. Et d'ailleurs, Georges Pompidou, dans un de ses livres, disait « Mais est-ce que dans les périodes difficiles, les Français mangent du sucre frit ?» puisqu'ils avaient du sucre et ils avaient stocké du sucre et de l'huile. Et ce qui est frappant aussi, c'est qu'assez vite, si on n'y prend pas garde, se met en place un marché noir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mettent à stocker et puis il y a des gens qui utilisent avec marché noir réel ou fantasmé. C'est-à-dire, on commence à dénoncer les gens qui stockent, les accapareurs. Il faut assez vite, dans ce genre de situation, que les pouvoirs publics mettent en place des dispositifs pour persuader la population que, un, il n'y a pas de pénurie, et deux, que le marché noir sera assez sévèrement réprimé.
Parce que c'est ce qu'on commence à observer, ce qu'on a observé sur les masques, mais vous dites, faisons attention, s'il devait y avoir des pénuries, le pendant de ça, ce sont les marchés noirs.
C'est les marchés noirs qui arrivent assez vite. Juste pour conclure, on a quand même un exemple assez clair qui était les pays d'Europe de l'Est, où il y avait des pénuries régulièrement, et à ça, on avait des réponses sous forme et de marchés noirs, effectivement, d'achats de précaution. Les Polonais, les Hongrois ou les Tchèques des années 60 ne sortaient jamais sans leur cabas, sans un sac, parce que dès qu'ils voyaient un magasin ouvert, ils se précipitaient pour acheter, même si c'était des objets dont ils n'avaient pas l'usage immédiat.
Pascal Ebel, c'est vrai que c'est incroyable, parce que tous les professionnels de la grande distribution, au début du confinement, ont tous martelé qu'il n'y avait pas de risque de pénurie, et pourtant, la veille de la mise en confinement, les achats, on va voir le chiffre, dans la grande distribution, on fait x3,5, plus 230% exactement. On a vite là, retrouvé le sens de l'essentiel. Là, on est vite allé pousser son caddie.
Oui, c'est vrai que c'est des mouvements de panique où chacun, voyant les autres faire des stocker, va copier. La dernière fois qu'on a observé ça, c'était en 91, donc après 1968. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, on va vraiment vers les produits de première nécessité. Et en une vingtaine d'années, ce ne sont plus les mêmes. On l'a rappelé, auparavant, c'était le sucre et l'huile. Aujourd'hui, ça a été avant tout les pâtes et le riz. La farine est aussi un produit qui a été stocké tout de suite. Et c'est vrai que là, ça dure. Et chaque semaine, c'est toujours deux fois plus sur certains produits. On a vu évoluer les choses. Ça a été au début, donc pâtes et riz. Donc là, c'est vrai que les rayons sont dévalisés. Et là, on voit qu'on va de plus en plus vers des plats cuisinés.
Pourquoi précisément pâtes et riz plutôt que, je sais pas, les boîtes de conserve? Pourquoi ces deux produits ont été les plus achetés?
Alors, c'est vraiment les produits qui ont beaucoup augmenté ces 20 dernières années en consommation. Ça fait partie des choses qu'on a consommées de plus en plus, surtout après la crise économique de 2008. C'est des produits faciles à préparer et qui ne coûtent pas cher. En fait, dans la crise de 2008, comme les prix ont explosé, on a commencé à manger de plus en plus de pâtes et de riz. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à en 20 ans, c'est qu'on voit bien qu'on stocke des produits faciles à préparer. C'est qu'on a perdu la question de savoir-faire à manger soi-même. Et là, cette semaine, ce qui explose, c'est les achats de plats préparés en conserve, les surgelés, qui explosent parce qu'on a entendu qu'il fallait qu'on allait rester confinés encore plus longtemps.
Sauf que Flavien Neuvy, Il y a eu des pénuries, il y a eu des rayons vides, on les a vus, donc on s'est dit rétrospectivement, j'ai bien fait de stocker. Il y a eu ce qu'on appelle, tiens, on va regarder, des achats paniques. Riz, plus 50%, on en a parlé, des gants ménagers, plus 60%, du gel hydroalcoolique, fois 2, voilà, plus 117%. Ces produits ont manqué, alors c'était autoréalisateur, comme on dit.
Oui, mais forcément, quand vous avez un choc comme ça de la demande d'un seul coup sur certains produits où effectivement l'essentiel de la demande se concentre sur le riz, les pâtes, forcément, il arrive un moment où les stocks s'épuisent un petit peu. Mais les magasins ont été réalimentés et objectivement, aujourd'hui, en matière alimentaire, hein, je vais laisser le gel hydroalcoolique de côté, mais sur le plan alimentaire, la France, il faut le rappeler, est une grande puissance agroalimentaire. On a une industrie qui est puissante, on produit beaucoup de choses sur notre territoire. Il n'y a pas de risque majeur de pénurie à court terme, voilà, il faut le dire pour rassurer les gens, parce que c'est vrai que ça génère un peu de panique tout ça, et quand on voit les gens qui se précipitent pour remplir leur caddie, comme vient de le dire Pascal Hébel, ça suscite des comportements identiques en fait, où chacun se dit « il faut que je me dépêche parce que sinon mon voisin va me prendre ma part ». Et objectivement, même si on peut avoir de temps en temps des rayons vides, parce qu'il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement sur tel ou tel produit, parce que la chaîne logistique est un petit peu enrayée, sur quelques jours, si vous voulez, les magasins sont réapprovisionnés.
Ouais. Jean-Marc Daniel, la France, grande puissance alimentaire, donc il n'y a pas de risque de pénurie. Nous produisons, nous mangeons ce que nous produisons. On sait qu'en Grande-Bretagne, on l'a beaucoup dit lors du Brexit, on a beaucoup dit qu'ils étaient dépendants du continent pour faire leurs courses, notamment les produits alimentaires. Là, pour le coup, on peut comprendre que les Anglais aient achevé tous ces achats paniques.
Alors, c'est un vieux débat en Angleterre, hein, puisque l'Angleterre, au moment où elle s'est lancée dans le libre-échange, dans les années 1820, un des grands arguments des gens qui voulaient maintenir la protection de l'agriculture anglaise, c'était de dire, on va dépendre en cas de guerre, en cas de difficulté, de fournisseurs qui seront nos ennemis. C'est-à-dire, les grands fournisseurs des Anglais en 1820 sur le plan agricole, c'était les États-Unis et la France, c'était les deux pays avec qui l'Angleterre avait été en guerre dans les 10 années précédentes. Donc, il y a eu un discours en disant, est-ce qu'on fait le pari d'accepter des prix plus élevés pour préserver notre autosuffisance dans des cas qui arriveront relativement rarement. Quand même, la guerre, la pénurie, c'est supposé être des cas relativement exceptionnels. Ou est-ce qu'on prend le risque et puis on s'adaptera en cas de difficulté? Alors, les Anglais ont dit on s'adaptera. Et donc là, les Anglais sont largement dépendants. Bon, on a pris l'exemple des pâtes et du riz. Sur le riz, on n'est pas autosuffisant. Ah ouais. En France, on n'en produit pas beaucoup de riz. Donc,
à part le riz de Camargue.
Oui, à part le riz de Camargue. Mais bon. Et donc, on est quand même, là aussi, en France, dans une situation où on accepte cette idée que sur certains produits, on est dépendant de l'étranger et d'une situation qui peut être une situation, à un moment donné, de tension sur le marché.
Voilà, on y reviendra d'ailleurs, hein, parce qu'Emmanuel Macron a dit qu'il fallait retrouver notre souveraineté alimentaire. On essaiera de comprendre ce qu'a voulu dire le président. Béatrice Mathieu, en tous les cas, on a réalisé le côté stratégique de nos agriculteurs, mais ça, on le savait. Mais le côté stratégique d'un secteur qu'on avait un peu enterré, c'est la grande distribution. Et c'est vrai que les caissières et les caissiers sont devenus les héros du quotidien.
Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a 2 mois, on parlait de la fin de la grande distribution, la fin des hyper. Et donc, le changement est radical. C'est vrai que ces grandes citadelles de la distribution, en marge des grandes villes, avaient des marges totalement laminées. Un secteur qui était en souffrance, hein, avec de gros plans de restructuration qui étaient annoncés, des fermetures de très grands magasins. Est-ce que ça veut dire que la crise actuelle, même si elle se prolonge encore un mois et demi, fait que qu'on va revenir en arrière sur un modèle de la grande distribution des années 70, 80, 90, je ne pense pas. Je pense que même, paradoxalement, ça peut même accélérer la mutation de certaines grandes anciennes quand on voit le succès du drive.
Vers là, Internet, donc.
Voilà. Et puis des modèles en fait d'organisation de ces grands géants de la distribution, quand on voit le succès du drive, on peut se dire, on reparlera des comportements de consommation tout à l'heure, mais les gens qui massivement font du drive aujourd'hui, est-ce que demain ils ne vont pas se dire, finalement c'est pas mal, on perd moins de temps, c'est des habitudes qui vont se créer, et donc ça veut dire qu'on a besoin paradoxalement, moins de ces très grandes surfaces, plus d'entrepôts. Donc ça veut dire, ouais, c'est pas la disparition de ces grandes anciennes, mais c'est sans doute une organisation qui est différente.
En fait, cette crise va donc modifier, hein, non seulement des habitudes, mais des organisations.
Et va modifier. Hein. Ce qui était déjà, c'était déjà
à l'œuvre, et ça va accélérer.
Il est possible que ça accélère.
Alors, 12 jours de confinement seulement, et déjà, les habitudes de consommation des Français sont bouleversées. entre la peur de la pénurie, la fermeture des marchés et les difficultés de production des agriculteurs et des pêcheurs, c'est toute la chaîne de production alimentaire qui va devoir s'adapter. En attendant, les files d'attente devant les supermarchés semblent toujours aussi longues. Sujet de Magali Lacroze, Maxime Liogier et Christophe Roquet.
Attendre son tour patiemment. Devant les supermarchés, les files s'allongent et parmi elles, certains s'inquiètent. Va-t-on pouvoir se nourrir à sa faim ? Au premier jour du confinement, les rayons entiers sont dévalisés en quelques heures.
Je suis là pour acheter ce qu'il faut, les nécessaires. Voilà, et j'ai peur pour moi, pour mes enfants.
Les Français s'affolent.
Il n'y a pas de perspective de manque d'approvisionnement. Il faut arrêter de faire ça. Il n'y a pas de motif à faire ça. Franchement, j'ai beau être le commerçant de service, l'épicier de service, je vous assure, il n'y a pas de risque de pénurie dans notre pays.
Pourtant, rien n'y fait. Au 12e jour de confinement, la peur de manquer de nourriture est réelle pour 40% des Français. Dans les exploitations agricoles, pourtant, les fruits et les légumes mûrissent. Les premières récoltes sont imminentes. Mais les fraises de Lot-et-Garonne pourront-elles être cueillies ?
Aujourd'hui, nous avons environ une cinquantaine de personnes. Il nous en manque encore 40.
D'ordinaire, des saisonniers venus de l'étranger gonflent les effectifs. Mais aujourd'hui, les frontières sont fermées et la main-d'œuvre manque. Un appel aux inactifs temporaires a été lancé par les agriculteurs il y a quelques jours, entendu par Ralph, d'ordinaire, coiffeur de métier.
Mon salon, effectivement, il est complètement fermé. J'ai 0 € qui rentre à l'heure actuelle.
Partout sur le territoire, les fraises et les asperges sont produites en quantité, mais menacent de pourrir par manque de bras et parfois de commandes des distributeurs.
Derrière ça, c'est l'enjeu de nourrir et que la population continue à trouver à manger. Nous, ce qui nous inquiète et ce qu'on a pu voir dans certaines grandes surfaces proches de la frontière espagnole ou même un peu plus éloignées, c'est que finalement des fraises arrivent d'Espagne et que pendant ce temps-là, les fraises des agriculteurs français pourrissent dans les champs. Et je trouve que c'est dommage.
Incompréhensible même pour le ministre de l'Agriculture qui demande aux distributeurs d'acheter français.
Ils se sont engagés, tous les patrons de grandes surfaces, ils se sont engagés au patriotisme alimentaire, à mettre dans leurs étals, dans les grandes surfaces, des fruits et légumes de France, du poisson, il faut manger du poisson.
Mais chez les pêcheurs français aussi, l'inquiétude se dessine. Les restaurants sont fermés et les prix du poisson au kilo se sont effondrés pour ceux qui pêchent encore.
Le peu qu'on arrive à vendre, les prix sont catastrophiques. Donc on en fait... On va pêcher un petit peu pour le quai, quoi, pour les clients habituels, et puis et c'est tout. Le maquereau, c'est 40 centimes.
Combien normalement ?
Voilà. Oh bah 1 €, non, cette saison-là, peut-être 2 € même. Ils vaut rien du tout.
Dans les Côtes d'Armor, un patron de 200 pêcheurs inquiet pour la santé de ses salariés préfère laisser tous ses bateaux à quai.
Dans une situation d'une telle ampleur, je pense que tout le monde est inquiet. Et donc c'est important d'avoir un capitaine dans le bateau.
Naviguer à vue depuis la terre ferme pour les pêcheurs et pour les agriculteurs, l'occasion de valoriser une fois de plus la filière française.
Alors, question téléspectateurs, allons-nous manquer de poisson ou de viande, Béatrice Mathieu ?
Il y a un problème dans toute. On a parlé de la grande distribution. Là, on a vu dans le reportage des producteurs. Et entre les producteurs et le magasin, il y a le canal de la logistique. Et c'est sans doute aujourd'hui ce canal de la logistique, donc ces camions, les entrepôts, les plateformes de logistique. Il y a une tension extrêmement forte sur cette chaîne, notamment dans le cadre de l'alimentaire. Parce que vous aviez des sociétés de transport qui étaient spécialisées dans l'alimentaire, d'autres qui étaient spécialisées dans l'industrie. Et là, dans l'industrie, vous avez des baisses de commandes et de chiffres d'affaires qui sont incroyables. Or, vous avez des camions, c'est pas parce que vous avez un camion qu'on peut utiliser ce camion pour transporter du lait. Or, par exemple, sur la question du lait, le lait, ça ne se stocke pas. Il faut que le camion passe tous les jours dans les exploitations. Donc, ce canal de la logistique et du transport, c'est aujourd'hui sans doute là que les risques sont les plus sérieux.
Pascal Hébel, vous confirmez, c'est tout. En fait, c'est une économie assez complexe. Et quand on a parlé de secteurs essentiels et non essentiels, on s'aperçoit que, en matière d'agriculture, il faut que ça marche, ça fonctionne. Du pêcheur qu'on a vu, hein, qui dit mais moi, je peux plus vendre mon poisson, jusque à la supérette.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a des régions qui ont comme Rungis des plateformes qui vont permettre d'alimenter, par exemple, l'Île-de-France. Mais il y a d'autres régions où il y a des produits qui n'arrivent pas. Par exemple, le poisson. Quand on est loin des mers, on en consomme beaucoup moins parce que ça n'arrive jamais frais. Donc, c'est déjà la réalité en temps normal. Donc, c'est vrai qu'on aura sans doute des produits qui ne seront plus tout à fait les mêmes. Mais on a quand même une diversité dans ce qu'on consomme qui est très, très forte. Quand on parlait d'autosuffisance, on chiffre à peu près à 85% d'autosuffisance quand on prend, par exemple, les calories. On pourrait être autosuffisant en France. Mais par contre, il y a certains produits sur lesquels forcément on les importe. On a parlé du riz, mais rien que les fruits et légumes, on importe 60% de ce qu'on consomme en France. Donc si on restait évidemment longtemps sans pouvoir avoir des flux importants, il faudrait manger des produits différents.
Flavien Levy, on importe parce que c'est moins cher. Alors quand on entend Didier Guillaume dire, écoutez, ben justement, c'est l'occasion de se retrousser les manches et peut-être de consommer local et de retrouver le sens des produits locaux. Vous croyez que cet appel peut être entendu? Je dis ça parce qu'on sait que les agriculteurs disent, par exemple, je ne trouve personne pour ramasser mes asperges. Et donc, mes asperges vont pourrir sur le champ.
Alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est la main-d'œuvre. Effectivement, il y a des tensions de ce point de vue-là sur le secteur agricole. Il y a des besoins de main-d'œuvre qui sont considérables et les inquiétudes des producteurs sont des inquiétudes réelles et fondées, à mon sens. Après, sur la partie de la consommation locale, je crois que cette crise pourrait accélérer un phénomène que l'on constate maintenant déjà depuis plusieurs années, qui est une augmentation de la consommation locale, et notamment pour tout ce qui est fruits et légumes, avec des producteurs qui essayent d'augmenter leur vente directe. On voit des magasins qui se créent et qui vendent leur propre production. Et c'est vrai que les consommateurs, quand ils achètent ces produits, d'abord, ils ont le sentiment de faire une bonne action parce qu'ils soutiennent la filière agricole locale, ça c'est la première chose. Il y a aussi le fait de contribuer à l'amélioration de l'environnement, puisque ce sont des circuits courts, et aussi le sentiment d'une espèce de patriotisme économique. Donc je crois que finalement, cette consommation locale, à l'issue de cette crise, elle ressortira renforcée aux yeux des consommateurs, et les habitudes qui se prennent aujourd'hui d'essayer de consommer le plus proche possible du producteur seront des habitudes qui resteront plus tard.
En attendant, il va y avoir des pénuries si le confinement devait durer sur certains produits. Il y aura des pénuries, et lesquelles, on est capable de le dire aujourd'hui?
Alors, comme le disait Pascal Hébel, sur les fruits et légumes, effectivement, on n'est pas du tout autosuffisant. On importe beaucoup de produits, notamment d'Espagne. Il y a un point d'inquiétude, enfin, en tout cas, un point qu'il faut surveiller, c'est l'attitude des grands pays qui sont exportateurs de céréales ou d'autres produits qui, pour certains d'entre eux, commencent à se demander s'il ne faut pas fermer les frontières pour garder leur production pour eux-mêmes. Donc ça, il faudra le suivre de près parce que les échanges internationaux sont absolument fondamentaux dans cette filière agroalimentaire. Et si effectivement, on commence à avoir des pays, on a eu le Kazakhstan, alors ça ne paraît pas comme ça, mais le Kazakhstan, c'est quand même un grand producteur de blé. La Russie aussi qui s'interroge. On a des pays asiatiques qui s'interrogent sur le riz. Faut-il continuer à exporter le riz alors qu'on en a peut-être besoin plus en ce moment, ils en ont peut-être plus besoin dans leur propre pays. Donc ça, il faut le surveiller parce qu'effectivement, ça pourrait créer des tensions. On voit déjà qu'il y a certains prix qui augmentent.
Alors, Jean-Marc Daniel, ça renvoie à ce qu'a dit le président de la République quand il a dit que c'était une folie que d'avoir délégué ainsi notre souveraineté alimentaire à l'importation. Mais pourtant, alors dites-moi si je me trompe, il me semble, on dit que la France est un grand pays, une grande puissance agricole. C'est de moins en moins vrai. On est autosuffisant en blé, on est même exportateur de blé.
Oui, alors on est autosuffisant sur un certain nombre de produits, on est exportateur sur un certain nombre de produits. Il est clair que un de nos principaux excédents extérieurs en termes agricoles, c'est la filière du vin et des spiritueux. Et ça n'a pas exactement le même rôle dans l'alimentation que le blé ou le riz. Et je crois que l'enjeu, c'est moins d'être autosuffisant, effectivement, que d'arriver à faire fonctionner tout cet aspect logistique. C'est-à-dire, on voit les caissières, on voit effectivement les agriculteurs. On voit bien dans cette crise qu'il y a quand même trois éléments différents par rapport aux crises antérieures. C'est-à-dire que les crises économiques antérieures, c'est tantôt on manque de demande et donc on peut relancer. Bah, tantôt, effectivement, on manque de capital, d'investissement, il faut faire un effort des entreprises. Là, on manque purement et simplement de travail, de gens qui sont susceptibles et en capacité d'aller dans les champs récupérer les fruits. Et pendant une guerre, cette disparition de la main-d'œuvre masculine avait été compensée en partie par l'entrée sur le marché du travail des femmes. Là, il y a véritablement pénurie de main-d'œuvre organisé par les pouvoirs publics pour des raisons qui sont assez évidentes. Le deuxième élément, il y a des éléments qu'on ne stockait autrefois, qu'on ne stocke plus et qui pourtant posent un problème, c'est l'énergie. Autrefois, en cas de guerre ou tout ça, y compris en mai 68, on stockait du fioul, on stockait du charbon. Là, maintenant, on a de l'électricité. Et donc, parmi les gens qui sont au front aussi, qu'on ne voit pas, mais qui sont quand même indispensables à notre survie, il y a tous les agents de l'électricité, tous les agents d'EDF qui...
C'est un secteur essentiel et invisible.
Il ne faut pas qu'ils soient confinés, ces gens-là. Ouais. Et le troisième élément, c'est que je pense qu'il y a, par rapport à ce que disait Béatrice, effectivement, il y a des tendances lourdes dans l'évolution de la distribution. J'ai trouvé intéressant la remarque de Bruno Le Maire, disant il faut réouvrir les librairies, il faut considérer que le libraire, c'est un...
C'est un bien essentiel
et tout ça. Or, effectivement, ça peut être pour le libraire l'occasion de se donner un peu de temps. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le libraire, il aura toujours, après cette crise, il aura toujours en face de lui Amazon. Et donc, c'est vrai que ça peut être une occasion pour le libraire, comme pour la caissière, d'affirmer son rôle, de réapparaître dans le paysage humain des consommateurs. Mais... ça ne va pas inverser des tendances lourdes.
Ce que vous dites, donc, Jean-Marc Daniel, c'est que cette crise, elle fragilise certains acteurs au sein de cette chaîne logistique et que certains, à force d'être fragilisés, pourraient finir par disparaître, comme le libraire.
Ah oui, absolument. Hein,
Béatrice Mathieu, oui.
Non, je voulais rajouter un point sur la question des pénuries. Là, on a beaucoup parlé des produits frais, ouais. Du poisson, de la viande, des légumes. Il y a la question aussi, on a vu les achats paniques sur les pâtes, par exemple. Ce qu'on va sans doute observer, c'est ce que font d'ailleurs certains industriels, parce que là, il faut parler aussi de l'industrie agroalimentaire, c'est que pour faire face à l'afflux en fait de commandes, et il faut répondre, eh bien, ils réduisent la longueur de la gamme, c'est-à-dire que pour faire fonctionner les usines 24 heures sur 24, eh bien, au lieu d'avoir, je dis un peu d'abordement, mais 10 gammes de pâtes allant de la tagliatelle à la coquillette, eh bien, on va se dire, on met le paquet sur 3 gammes de produits. Donc il est possible que dans certains magasins, on voit disparaître certaines gammes de pâtes, mais ça ne veut pas dire qu'on va manquer de pâtes. Mais ça, cette réflexion-là, dans la longueur de la gamme, dans la diversité de la gamme, les industriels agroalimentaires sont en ce moment clairement en train de se le poser.
Alors Flavien Levis aussi, si on regarde dans le détail de ces achats assez spectaculaires qu'on a observés avec le confinement, il y a le papier toilette, ça reste un mystère. Enfin, je ne sais pas si ça s'explique, plus 92%. Et puis alors, il y a autre chose, on dit aussi que qu'il y a un risque d'addiction. Avec ce confinement, qu'on pourrait retomber dans certaines addictions. Or, au contraire, on s'aperçoit que les ventes d'alcool ont baissé, en tous les cas, le premier jour, moins 1,7%. Je ne sais pas si vous pouvez commenter ou ce que vous inspire ces évolutions entre des produits qui n'ont rien à voir, je le reconnais.
Alors, on va voir ce qui se passe dans la durée, parce qu'il faut quand même rappeler que le confinement, là, ça fait 15 jours que le confinement a commencé. Finalement, ce n'est pas si long que ça par rapport à ce qui est annoncé. Il y a encore 15 jours à venir, peut-être plus après, on verra. En tout état de cause, on voit déjà que la façon de consommer et de manger est déjà un peu différente. On verra pour l'alcool, mais sur l'alimentaire, les gens ont acheté des pâtes et du riz et ils mangent des pâtes et du riz. Et ça explique en partie pourquoi les pêcheurs souffrent beaucoup aussi. C'est parce que quand on cuisine tous les jours à la maison, à midi et le soir, et qu'on fait manger si on a une famille, des enfants, etc., c'est pas très simple de préparer des repas très différents, très diversifiés tous les jours. Et les gens vont quelquefois effectivement au plus simple. Et il faut pas oublier non plus que la fermeture des restaurants, que ce soit les restaurants traditionnels, mais même les restaurants d'entreprise ou les restaurants scolaires, qui sont très fortement consommateurs de viande, de poisson, de produits frais, pénalise aussi un certain nombre de filières agricoles parce que quand on est à la maison, effectivement, on ne mange pas tout à fait la même chose, on n'a pas tout à fait le même régime alimentaire. Et donc ça explique au moins en partie pourquoi, on a vu tout à l'heure le reportage sur les pêcheurs, pourquoi les prix baissent, notamment sur le poisson.
Pascal et Belle, oui, ça c'est le hors-domicile, comme on dit, hein, les cantines, les sandwicheries, les restaurants. Alors dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est presque 30% hein, des repas pris. Alors justement,
De ce qu'on consomme en grammes par jour, ce que représente la restauration hors foyer. C'est vrai qu'on a ce flux d'individus qui sont obligés de faire la cuisine, donc ça pose des questions parce que tout le monde n'est pas capable de faire la cuisine et c'est pour ça que ce qui explose aussi, c'est à la fois un peu quand même de la livraison de repas à domicile et qu'aujourd'hui, on le voit cette semaine par rapport aux deux dernières semaines, on va acheter des plats tout prêts parce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Alors c'est vrai que pour les industriels et pour surtout les producteurs de produits frais, on va avoir une baisse de consommation. On n'est pas capable de faire les courses tous les jours. Donc il y a plein de produits qu'on ne peut pas stocker, donc notamment du poisson, c'est impossible. Et donc, comme on est censé faire les courses de moins en moins souvent, ces produits-là, comme il n'y a plus la restauration et comme on ne peut pas les cuisiner et surtout les acheter et les consommer tout de suite, c'est pour ça qu'il y a une baisse de consommation. Notamment, il y a eu des alertes sur les fraises parce que les gens, les fraises, il faut les manger tout de suite. Comme on fait ses courses qu'une fois par semaine, c'est au moins ce qui est recommandé, eh bien, tous ces produits frais vont être moins consommés.
Est-ce que c'est pour ça que le Premier ministre semble s'être ravisé sur la fermeture des marchés ? Il était assez ferme au début. Et là, finalement, il semble dire non, mais localement, au cas par cas, les maires, les préfets peuvent autoriser la rouverture des marchés.
Bien sûr, c'est plus pour les acteurs, pour défendre les acteurs économiques. En global, en France, il n'y a que 30% des Français qui font leurs courses dans les marchés. Et c'est très, très différent selon les territoires. Notamment, c'est vrai que ce n'est pas dans les territoires les plus ruraux où il y a plus de marchés. Donc, sans doute, il y a des endroits où on ne peut pas faire ses courses très facilement sans prendre sa voiture, où il faut les laisser implanter. Ça, c'est du point de vue du consommateur. Et par contre, c'est plus pour les acteurs qu'en effet, les agriculteurs, les producteurs, il faut écouler tout ce qu'ils sont en train de produire. Mais là, la grande distribution vous fait des gestes, hein, puisqu'ils mettent de plus en plus de produits français dans leurs magasins. Et ça va permettre d'écouler ces stocks. Mais c'est certain qu'on n'arrivera pas à consommer tous ces produits, puisqu'on va manger beaucoup plus de produits surgelés, de produits en conserve.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à des écarts de prix assez spectaculaires ? Alors, à la hausse pour des produits qui viendraient à manquer, qui seraient en état de pénurie, et à l'inverse, à la baisse pour des produits qui seraient en surproduction et que les producteurs n'arriveraient pas à écouler ?
Oui, bien sûr, il y a des patrons de grandes enseignes qui viennent d'annoncer qu'ils vont faire des promotions sur les asperges et les fraises pour qu'elles soient écoulées. Donc ça vient d'être fait, c'est pour faire de la communication.
Mais fraises made in France ? La garriguette en promo ?
Oui, bien sûr, elle va être moins chère cette année parce qu'il y en a, beaucoup trop. On le voyait tout à l'heure dans le reportage, hein, les producteurs d'asperges n'arrivent pas à écouler parce qu'en effet, c'est des produits aussi qui étaient consommés dans les restaurants comme le poisson. Donc dans la solidarité qui se met en place, on a cet acte-là d'aller vers plus de produits frais.
Avec les Deliveroo, etc. Là, on a un retour au basique. Je pensais à ça, là. Les gens confinés à New York qui n'ont pas de cuisine, comment ils font ? C'est curieux, comme les crises vous font revenir au basique.
Absolument. Mais ils ont en face d'eux des entreprises qui commencent à apparaître, qui ne sont pas des restaurants, en ce sens que ce n'est pas des endroits où on vous accueille, et où mais des gens qui vous livrent des repas, qui sont des repas tout préparés. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui se mettent en place, qui fabriquent les plats en question et qui viennent vous les livrer. Avec, quand vous regardez à New York, d'ailleurs, ils les posent sur la...
Devant la porte.
Devant la porte, et ils ne voient pas la personne à qui ils apportent les repas. C'est sûr que, ou bien ça dure 2 mois, et à ce moment-là, effectivement, ça aura été un événement qui aura révélé un certain nombre de choses, mais qui n'inversera pas un certain nombre de tendances lourdes. Si ça doit durer un an, à ce moment-là, je pense qu'il y aura des conséquences sur notre style de vie de la nature de ce qu'ont été véritablement les guerres.
Béatrice Mathieu, on disait tout à l'heure que les caissiers et les caissières dans les supermarchés étaient devenus les héros du quotidien et que c'était l'une de nos préoccupations d'aller faire nos courses dans ces supermarchés. Néanmoins, est-ce que tous les formats, est-ce qu'il n'y a pas des formats qui fonctionnent mieux que d'autres ? Je crois que les hypermarchés ont moins la cote et que c'est surtout
C'était déjà le cas, hein. C'était déjà le cas avant.
Ça ne sauvera pas l'hypermarché, quoi.
Non, voilà. Ça ne sauvera pas, c'est ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que le modèle de ces hypermarchés très, très, très grands qui étaient en périphérie des grandes villes était déjà en crise avant le corona. Et cette crise, elle va perdurer. Donc, on est plutôt sur la grande distribution est en train de se réinventer sur des modèles plus petits, plus proches des gens, avec effectivement plus de... notamment, on voit dans les grandes villes, des rayons frais où on pouvait avoir les jus de fruits. Il y avait tout un truc du consommer aussi mieux, manger mieux. Donc il y avait aussi toute une réflexion sur ça. Mais sur on voit ce qui est assez paradoxal aujourd'hui, ce que disait Pascal Hébel, où on voit que les produits tout préparés, la consommation explose. C'est peut-être aussi aujourd'hui le moment de réapprendre à cuisiner. Quand on voit le surplus de fraises, vous achetez un kilo de fraises, vous achetez un kilo de sucre, et bien vous faites des confitures de fraises pour l'hiver prochain.
Eh ben voilà, une bonne idée de recette pour après c'est dans l'air. Alors, ce sont les grands gagnants de la crise du coronavirus, les géants du commerce en ligne. Les sites de e-commerce, la Fnac, Boulanger ou Cdiscount ont vu leurs ventes exploser depuis 15 jours. Une surcharge de travail qui inquiète d'ailleurs chez Amazon. Les syndicats dénoncent des mesures de sécurité sanitaire insuffisantes et demandent à leurs salariés d'invoquer le droit de retrait. Sujet de Mélanie Nunes et Erwan Ilion.
L'économie mondiale, plombée par le virus, à quelques exceptions près. Depuis le début de la crise, le commerce en ligne a explosé. Plus 15% de ventes à travers le monde en seulement quelques semaines. C'est le cas de la Fnac Darty, troisième commerçant en ligne en France, derrière Amazon et Cdiscount. Depuis l'épidémie, ses ventes ont été multipliées par 10 dans certains secteurs comme l'informatique. Plus 350% de fréquentation sur le site de la Fnac, plus 200% pour Darty, avec des ventes qui, certains jours, avoisinent celles d'un Black Friday.
Ce qui nous concerne à nous, c'est particulièrement les ordinateurs, les tablettes, tous les outils de productivité, les imprimantes, les papiers, parce qu'il faut des cartouches d'encre. Et on reçoit des centaines, des milliers de messages, des remerciements des clients qui sont très fragilisés parce que quand vous avez dans la maison un frigo qui tombe en panne, dans ces moments, ça peut arriver. Si vous n'avez pas d'Arty qui vous les répare, vous avez un vrai problème avec vos capacités de rester dans votre appartement.
Une aubaine également pour le roi du e-commerce, Amazon, qui a renforcé ses effectifs depuis la crise. 100 000 postes créés aux États-Unis. Travailler, quoi qu'il en coûte. Des entrepôts qui tournent à plein régime, où les salariés commencent à se rebeller. À Saran, près d'Orléans, ils sont des dizaines à manifester devant les locaux. Ils estiment que les conditions d'hygiène sont insuffisantes. Lundi dernier, l'un de leurs collègues a été testé positif au Covid-19. De son côté, la direction met en avant l'installation de ses portiques ou ses marquages au sol pour protéger ses salariés.
La santé et la sécurité de nos salariés restent nos priorités absolues. Nous avons pris des mesures fortes pour assurer la sécurité sur nos sites.
Pourtant, sur ces images fournies par les salariés, la distance d'un mètre ne semble pas respectée. À l'intérieur, des équipes d'une centaine de personnes, sans gants ni masques.
Sur le site, on n'a pas assez de gel hydroalcoolique, ça c'est sûr. Quand un article arrive dans un entrepôt Amazon, jusqu'au moment où il part, donc jusqu'au moment où il est expédié, donc il va dans le camion, il y a au moins entre 5 à 6 personnes qui vont manipuler cet article. Moi, je n'ai pas mis mon droit de retrait en place, et mes camarades non plus. Le DRH nous l'a dit, en réunion, tous les gens qui se mettront en droit de retrait, ils ne paieront pas.
Des conditions inadmissibles et dangereuses, estiment les syndicats comme Force ouvrière, qui ont pressé le gouvernement d'agir.
Des premiers guides en réunion avec le président de la République, que ces guides seraient opposables. C'est-à-dire que si l'employeur ne s'y conforme pas, les salariés seront en droit d'exercer, là, pour le coup, leur droit de retrait.
Des ventes en ligne qui pourraient aussi sauver des petits commerces actuellement fermés. Un guide a été lancé par le ministère chargé du numérique. Le but, inciter ces commerçants à vendre sur Internet leurs marchandises.
Il y a de l'inquiétude sur comment vont-ils faire pour continuer à vivre, pour continuer à garder un contact avec leurs clients et qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. Dans l'intervalle, nous, on essaye juste d'avoir un petit canal qui fait qu'ils continuent à vendre, ils continuent à avoir des relations avec leurs clients et ils arrivent à maintenir une petite activité dans cette période difficile.
Et il y a urgence. Le gouvernement vient de mettre en place un fonds de solidarité pour sauver ces petites entreprises. Une aide de 1 500 € par mois pourra leur être versée.
Alors, question téléspectateurs, les GAFA et les supermarchés seront-ils les seuls gagnants de la crise économique? Béatrice Mathieu, c'est vrai qu'Amazon, on vient de voir, tout le monde critique Amazon, mais en tant que consommateur, tout le monde commande sur Amazon. J'ai vu qu'en Ile-de-France, leur part de marché était passée de 29% à plus de 40%.
Oui, c'est vrai, c'est Amazon est sous pression. Il est sous pression à la fois d'un afflux de commandes et donc il faut faire tourner les entrepôts. Et on voit bien qu'en ce moment, les choses ne sont pas si simples avec un taux d'absentéisme. Alors les syndicats disaient quasiment 40-50%, mais ça comptait aussi les congés, les gens qui avaient pris des congés pour garder les enfants, etc. La direction dit 20%. Modèle, donc pression sur son modèle aussi économique, puisque le rapport de force, il est quand même un petit peu en train de s'inverser en faveur de gens qui travaillent dans ces entrepôts. Et on voit bien qu'Amazon a commencé à dire, bon, bah, d'accord, on va vous donner aux États-Unis $2 de plus de l'heure, en Europe 2 euros. Et on voit bien que le modèle de cette Amazon hyper puissant, etc., il va devoir, il y a aussi un problème de réputation aussi pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas grand gagnant sur toute la ligne. Il va devoir
démontrer. Le consommateur, au moment de cliquer, quand même, il peut se dire, tiens, je pourrais peut-être aller voir ailleurs parce que Amazon
traite mal ses employés. Traite mal ses employés. On voit bien aujourd'hui où on dit justement que ces caissières sont à côté des soignants, les héros du quotidien, c'est ceux qui travaillent dans ces entrepôts aussi. Et donc, il faut aussi bien les soigner.
Jean-Marc Daniel, on dit pourtant qu'il y a une prime au plus gros dans les internets. Et c'est pour ça que ces GAFA sont triomphants, c'est parce qu'ils sont partis avant, donc plus gros, donc imbattables. Pourquoi dit-on ça et est-ce vrai ?
Oui, alors normalement c'est en partie vrai, ça dépend des secteurs d'activité, en tout cas sur les réseaux sociaux traditionnels, ceux qui sont partis, enfin je veux dire Facebook, c'est clair que le fait d'être parti le premier, ça leur donne un avantage. Amazon, c'est un libraire au départ. Et donc, on pourrait considérer que les autres libraires pourraient essayer de jouer le jeu concurrentiel avec Amazon en utilisant les mêmes outils qu'Amazon. Et je crois qu'un des éléments clés qui va être l'un des résultats de cette crise, c'est un certain nombre d'entreprises vont se persuader que le passage au numérique, c'est véritablement nécessaire et indispensable. Après tout, pourquoi est-ce que il y aurait que sur Amazon qu'on pourrait commander les livres par Internet ? Pourquoi est-ce que le libraire du quartier, et on ne pourrait pas lui envoyer un petit message en lui disant...
Alors, j'essaye de le faire.
Et voilà, et voilà. Et donc, je pense que un des éléments clés, une des leçons qu'il y aura à retenir de cette crise, c'est que ceux qui vont s'en sortir, ce sont ceux qui manieront l'outil numérique de la façon la plus efficace et qui essaieront de briser ce monopole que les GAFA se sont constitués, sachant que les pouvoirs publics peuvent également essayer de faire en sorte que ces monopoles soient cassés. Et par ailleurs, concernant les personnels, vous avez une réaction qui est assez simple et facile de la part des entreprises, qui consiste à dire on va augmenter les salaires, comme ça, bon. Et c'est d'ailleurs une position aussi partagée par le gouvernement qui avait dit on va mettre des primes. La réaction des syndicats a été assez claire et je trouve assez saine en disant écoutez, l'enjeu, c'est pas de savoir si on doit gagner 2 euros de plus de l'heure. Enfin, il y a un problème à la fois de capacité à assurer notre sécurité et cette façon de dire on va acheter votre vie, ça vaut combien votre vie ? Bon, allez, 1000 euros de plus et puis on n'en parle plus. C'est une façon assez méprisante et assez condescendante. Et là aussi, je pense qu'il y aura des traces sur la façon dont on organise les relations sociales et cette idée que ce n'est pas exclusivement le salaire qui est l'élément clé de la définition des relations entre l'employeur et l'employé.
Pascal Hébel, sur cette percée des GAFA, est-ce que le e-commerce va ressortir renforcé et Internet va ressortir renforcé de cette épidémie ? Je dis ça, on parlait des libraires, mais il y a le Canard Enchaîné qui avait toujours refusé d'être en ligne. Ben, ça y est, ils viennent de céder, ils ont ouvert un site Internet. On peut désormais lire le Canard Enchaîné sur Internet et non plus uniquement en kiosque. D'ailleurs, c'est malheureux pour les kiosquiers.
Alors, c'est sûr que sur le e-commerce, on a vraiment un engouement qui a lieu là en ce moment, alors qu'on était en train de voir une stagnation en termes de consommateurs. Le pourcentage de ceux qui achètent sur le e-commerce stagnait autour de 60-61%. Donc, sans doute que ceux qui étaient résistants à l'usage de cet outil pourraient, pendant cette période, le faire ou être aidés par d'autres pour le faire et donc s'y mettre. Donc, on aurait plus d'acheteurs sur Internet. Ensuite, du côté des réseaux sociaux, en effet, il y a des effets réseau, c'est-à-dire qu'on va vers le plus gros. Et donc là, c'est WhatsApp qui augmente le plus parce que c'est là que vous avez le plus d'amis. Donc ça, c'est indéniable que c'est les plus gros qui sont les grands gagnants du numérique parce que c'est eux qui ont le plus de gens qui sont dessus. Donc si vous voulez communiquer avec vos amis, vous allez sur le plus gros. Donc c'est eux qui vont être gagnants dans la bataille. En ce qui concerne les achats de produits de loisirs, c'est ce qui s'est acheté pendant cette crise, c'est vrai qu'on voit des hausses très fortes sur les livres. Et c'est vrai qu'on aurait pu, en effet, aller plutôt acheter chez le libraire, mais évidemment, on va au plus facile. Donc sans doute, il y a ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer après. Et là, c'est vrai que la notoriété des marques se joue. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont faire attention à leurs salariés. Il y a une enquête qui vient de sortir, 80% des Français demandent à leur marque avant tout qu'ils prennent en compte la santé de leurs salariés. Et la deuxième chose qu'ils demandent, c'est qu'ils fassent des dons, qu'ils soient dans la solidarité. Donc si Amazon est obligé de résoudre, de réagir, c'est bien pour ça. C'est pour que son image ne diminue pas et qu'ensuite, après ce confinement, les gens continuent à acheter chez eux. Et là, c'est leur notoriété qui se joue.
Flavien Levy, est-ce qu'il n'y a pas aussi une digue qui a sauté avec cette épidémie? C'est que jusqu'à présent, on disait tout ce qui est alimentaire, on ne l'achète pas sur Internet. On n'a pas envie d'acheter des pommes de terre, etc. Ou on a envie de voir la tomate. Eh bien, ça y est, maintenant, même les denrées alimentaires, on les commande en ligne.
Oui, on vient de réaliser un terrain d'ailleurs.
D'ailleurs, Rungis va faire un site Internet.
Oui, absolument. Alors, nous, on vient juste de réaliser un terrain justement pour essayer de voir comment les Français appréhendent finalement cette période pour les achats alimentaires. Et il y a un tiers des Français qui nous disent qu'ils envisagent d'acheter en ligne et utiliser le Drive et qu'ils envisagent de le faire pour la première fois et qu'ils ne le faisaient pas jusqu'à présent. Et donc, toute la question, c'est de savoir si demain, quand la crise sera terminée, si ces comportements naissants pour ces nouveaux consommateurs en ligne, ils les garderont. On peut penser que oui, parce que l'expérience passée nous a montré que souvent, le plus difficile, c'est le passage à l'acte pour la première fois. C'est le fait de payer en ligne pour la première fois, c'est le fait de commander pour la première fois. Et qu'une fois qu'on l'a fait et que ça s'est bien passé, parce qu'aujourd'hui ça se passe bien, les habitudes se prennent assez vite. Et je rappelle juste un point, du coup, par rapport à votre question sur Amazon et sur les géants du e-commerce, c'est que au fond, les magasins sont fermés, mais Internet est ouvert. Et que quand on regarde les chiffres d'Amazon en forte croissance sur 2019, hein, je rappelle pratiquement 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est vrai que les commerces aujourd'hui sont fermés et qu'il y a quand même une inquiétude pour tout le commerce de proximité qui est quand même assez fragile. Hein. Il faut rappeler que ce sont souvent des enseignes, même si elles sont sous franchise, sont des commerçants indépendants. Aujourd'hui, ils ne font plus de chiffre d'affaires et les habitudes de consommation peuvent changer durablement. Donc oui, je pense qu'il y a de grosses inquiétudes par rapport à ça sur l'après.
Béatrice Mathieu, nos petits commerces de proximité, de centre-ville, qu'on essaye de faire de porter à bout de bras et de faire revivre au nom de la chaleur qui a à se promener dans les centres-villes, ils ont du souci à se faire?
Ils ont du souci à se faire, oui et non, parce qu'on voit quand même que beaucoup aujourd'hui dans les grandes villes s'organisent pour faire des services de livraison, s'organisent pour adapter leurs horaires, ouvrir très tôt le matin, etc. Donc effectivement, ils sont balayés par le Drive, balayés par Amazon. Mais certains, surtout s'ils sont spécialisés, peuvent malgré tout tirer leur épingle du jeu.
Jean-Marc Daniel, on a beaucoup parlé donc de la nourriture, enfin des achats alimentaires qui passent sur Internet, mais il n'y a pas que ça. C'est la même chose dans le cinéma. Maintenant, les cinémas de quartier ont fermé, donc on regarde les films depuis son canapé. Et c'est la même chose pour le travail. Enfin, ceux qui le peuvent, télétravail. Est-ce que là aussi, ce sont les habitudes qui seront gardées après cette épidémie?
Je crois qu'il y a, effectivement des secteurs qui vont soit se renforcer, soit devoir se réorganiser. Nous sommes à la télévision, là aussi, de plus en plus de gens se sont mis à redécouvrir la télévision et en tout cas à regarder les produits de la télévision. D'ailleurs, les chaînes adaptent en permanence maintenant leur programme à cette nouvelle demande. Et il y a un autre secteur qui, à mon avis, va être obligé de réfléchir à ce qui s'est passé, c'est celui de l'enseignement. Vous vous souvenez de la polémique qu'il y a eu lorsque la porte-parole du gouvernement a dit « les enseignants ne travaillent pas en ce moment ». Et les enseignants, à juste titre, ont dit « mais pas du tout, on est en contact avec nos étudiants, on fait tout un tas de choses ». Et effectivement, la question qui se pose au travers de l'expérience que nous vivons, c'est est-ce que ce qu'on appelle le présentiel, c'est-à-dire le fait de rassembler des adolescents ou des étudiants dans un lieu avec en face quelqu'un qui parle, c'est le véritable métier de l'enseignant moderne? Est-ce que le métier de l'enseignant moderne, c'est pas de dire « voilà les outils, vous allez sur Internet, vous allez dans des bibliothèques, vous allez... Et puis moi, je vais être votre guide. Je ne vais pas être une parole qui arrive d'en haut. Je suis celui qui va vérifier que vous avez bien intégré cette parole. » Et donc, je pense qu'effectivement, elle a eu tort de dire ça. Elle a eu tort sur le plan de la forme. C'est assez insultant pour les enseignants. Mais elle a eu tort sur le fond. Je pense qu'effectivement, ce qui se passe en ce moment, c'est une rénovation du métier d'enseignant qui est liée à cette évolution technologique et à cette nécessité due à la crise.
Pascal Hébel, vous me disiez juste avant l'émission que vous travailliez en télétravail. Ce sont des habitudes qui vont rester?
Parce qu'on peut... pense que c'était déjà enclenché, mais c'est vrai que là, massivement, on comprend qu'on peut faire du télétravail et donc ça va forcément augmenter Et on va voir que finalement, on travaille peut-être plus, on travaille différemment, mais on peut gagner du temps parce que justement, il y a moins de réunions physiques et les Français avaient l'habitude, ont quand même l'habitude de passer beaucoup trop de temps. Donc ça, on sait que c'est plus efficace, les réunions qui sont sur le télétravail. Mais il y a d'autres secteurs, hein, la télémédecine, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'en effet, on peut aussi se soigner à distance sans se déplacer. Donc il y a tout un tas de choses qui se développaient et qui, là, la crise accentue ces phénomènes.
Mathieu,
oui, juste une expérience personnelle. Nous, l'Express, en un week-end, a été basculé. On a basculé une rédaction entière en télétravail, même les maquettes, même les réviseurs. Et donc, le journal sort et on a découvert des outils formidables. On fait des réunions tous les jours, tous les matins, et on se voit tous et ça marche.
Et c'est la même chose sur Europe 1, puisque chacun parle d'expérience professionnelle. Nous faisons déjà désormais la radio depuis chez soi. Voilà. Donc, dans ce contexte économique catastrophique, le gouvernement français est bien décidé à voler au secours des entreprises françaises. Le ministre de l'économie n'hésite pas d'ailleurs à évoquer des nationalisations si c'est nécessaire. Mais Bruno Le Maire demande aussi aux poids lourds du CAC 40 de renoncer à verser des dividendes cette année à leurs actionnaires. C'est une interview réalisée par Romain Besnénou et Pierre Millet.
Nous serons de toute façon en récession en 2020, la zone euro sera en récession. Tirer les leçons de l'histoire, c'est parce que ce choc est violent, brutal et qu'il touche l'économie réelle qu'il faut une réponse massive. Et cette réponse économique, elle a été massive et immédiate de la part du gouvernement français. Je crois que je n'ai jamais caché aux Français depuis le premier jour de cette crise que ce n'était pas une crise comme les autres, que c'était une crise de l'économie réelle, qu'elle était violente, qu'elle était durable, qu'elle était mondiale, et qu'elle allait demander le déploiement de mesures exceptionnelles. Nous avons mis en place un plan d'urgence économique qui est exceptionnel. Nous avons mis en place une garantie d'État de 300 milliards d'euros pour l'ensemble des prêts pour les entreprises. Nous sommes prêts à faire plus. Nous sommes prêts à allonger encore les soutiens économiques si c'est nécessaire, tout simplement parce que les circonstances l'exigent. L'État, il a plusieurs possibilités. Il peut monter au capital de ses entreprises, il peut les recapitaliser et il peut les nationaliser. En gros, c'est une vingtaine d'entreprises qui sont concernées, principalement dans le secteur de l'industrie automobile ou dans le secteur aéronautique, d'où nous tenons prêts. J'ai adressé au président de la République une liste de ces entreprises qui étaient les plus menacées et qui auraient besoin du soutien de l'État dans les mois qui viennent. Ce n'est pas pour demain ou pour après-demain, ça peut prendre un peu plus de temps, mais l'État défendra ses fleurons industriels. Je souhaite que toutes les entreprises fassent preuve de la plus grande modération dans les dividendes. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est que l'argent aille aux salariés, à l'entreprise, au redémarrage de l'entreprise et pas aux actionnaires. Donc l'État sera exemplaire là-dessus. Nous prendrons des décisions dans les jours qui viennent pour que les entreprises dans lesquelles l'État a une participation soient exemplaires en matière de versement de dividendes, et il sera exemplaire. J'appelle toutes les grandes entreprises à faire preuve de modération en termes de versement de dividendes, et il va de soi qu'à partir du moment où on bénéficie d'une aide publique, eh bien il faut que cette aide publique elle aille à l'entreprise, aux salariés, à l'investissement dans l'entreprise, et pas aux actionnaires.
Alors, question téléspectateur, pourrait-on me dire d'où viennent ces milliards d'euros et de dollars qui sortent de partout ? Qui va payer la facture et quand ? Jean-Marc Daniel.
Écoutez, je ne suis pas loin de penser la même chose que ce téléspectateur. Mais d'où vient tout cet argent ? Et je crois que ce qui est dangereux, c'est de donner l'impression que cet argent, effectivement, il y avait un trésor caché, que après avoir demandé aux Français de faire des efforts sur leur retraite, mais écoutez, vous savez, le déficit de la retraite, c'était 12 milliards, il faut faire une conférence de financement. Mais alors là, on va faire un plan de 750 milliards, 300 milliards, 1000 milliards, 2200 milliards. C'est absolument sidérant. Alors en fait, cet argent, ça vient d'où ? Ça vient du fait qu'on va s'endetter. On va, quoi qu'il en coûte, ça aura un coût. Alors je crois qu'il y a, par rapport à ça, deux erreurs. La première, c'est ce qu'un des grands économistes du 19e siècle appelait l'esprit alchimiste. Considérait que, de toute façon, c'est pas grave parce qu'on va trouver des mines d'or. Non, On ne trouvera pas de mine d'or, on ne trouvera pas la pierre philosophale. L'économie, ce n'est pas l'alchimie. Et la deuxième erreur, c'est de considérer que la dette, finalement, ça se reporte. On fait ça, on la reporte de génération en génération. Je crois qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer. Alors, il y a deux éléments qui vont jouer. Le premier élément, c'est qu'encore une fois, comme je disais, on n'a pas un manque de demande, on n'a pas un manque de capital, on a un manque de travail. Donc la première façon qui va être faite de faire payer et de sortir de cette crise, c'est de remobiliser le travail. Donc je pense que le premier élément qui va être mis en œuvre dès qu'on en sera sorti, c'est de remobiliser le travail.
Très concrètement d'ailleurs, au passage, le gouvernement pourrait demander à ce qu'on renonce à quelques jours de RTT ou à quelques jours ou à une semaine de vacances.
Exactement, oui. Écoutez, il y a un exemple, puisqu'on parle de guerre et tout ça, un exemple assez célèbre, même si le personnage qui est à l'origine de ça n'est pas glorieux, c'était Daladier quand il est rentré de Munich. Il a vu qu'on était en état de guerre, bon, même si autour de lui, on n'en avait pas conscience. Et donc la première décision qu'il a prise, c'est de supprimer les 40 heures dans les usines d'armement. Et puis ensuite, il a supprimé les 40 heures d'une façon plus générale. Mais il a dit, on est en état de guerre, on a besoin de travail, on a besoin de remobiliser la population sous forme de travail. Donc je crois qu'on va, d'ailleurs le Premier ministre l'a indiqué, il va falloir revoir les RTT, les congés, l'année scolaire va être décalée, il y a une réorganisation. Le deuxième élément, c'est que quand on injecte comme ça des moyens de paiement, vous savez, il y a 10 principes d'économie fondamentaux qui sont associés au nom de Nicolas Gregory Mankiw, qui est le personnage qui a fait le manuel qui est utilisé par la plupart des étudiants d'économie dans le monde entier. Et son principe neuf, c'est on ne peut pas durablement créer de la monnaie s'il n'y a pas du travail en regard, sinon ça devient de l'inflation.
C'était donc, les années 20 de la République de Weimar. Donc, hein.
Voilà, et quand on a créé énormément de monnaie, les années de guerre, il y a de l'inflation. Je rappelle quand même là aussi, les prix ont été multipliés par 17 entre 39 et 45. On n'en est pas là, mais il y a un moment où quand vous...
Quand il y a beaucoup de billets et rien en face, les billets ne valent plus rien.
Il n'y a plus rien. Et puis le troisième élément, c'est que je pense qu'effectivement, cette dette, à un moment donné, il faudra quand même l'apurer. Alors ça peut être la génération d'après qui l'apure. Ça peut être la génération actuelle au travers de hausse d'impôts, il y a un moment où la question se posera.
Donc si je vous résume, on va plus travailler, il va y avoir de l'inflation et il va y avoir un impôt coronavirus.
Et on risque d'avoir un impôt coronavirus. Alors après, encore une fois, ce qu'a montré l'expérience en France, c'est que cette phase de « on va réduire la dette, on va apurer les comptes », on a du mal à la mettre en œuvre. C'est-à-dire que je rappelle qu'en 2008, la France et l'Allemagne avaient le même niveau de dette publique. Là, on rentre dans cette nouvelle crise avec une dette publique qui représente 100% de notre production, alors que l'Allemagne est à 60%. C'est la formule célèbre de Kennedy qu'on s'est remise à citer. C'est pendant qu'il fait beau qu'on répare la toiture. Comme ça, on évite les inondations au moment où la pluie revient.
Béatrice Mathieu.
Je suis d'accord avec Jean-Marc. Hein. Le sujet de demain et après-demain, ça va être la dette. La dette assez à court terme d'ailleurs des entreprises, parce que les fameux 300 milliards dont le ministre parle, c'est 300 milliards de garanties. Donc on incite aujourd'hui là les entreprises, elles n'ont plus de cash qui rentre. Hein. Il y en a beaucoup qui sont à l'arrêt. Elles doivent payer, elles ont des coûts fixes. Tous les salariés ne sont pas au chômage partiel. Elles n'ont plus de rentrée d'argent. Elles ont des
coûts. Ça permet de maintenir notre outil industriel.
Donc ça permet de maintenir, mais ce sont des prêts. Ce sont des prêts qui sont garantis, des prêts qu'il faudra bien rembourser. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don de l'État de 300 milliards. Hein. Ce sont des prêts garantis par l'État. Donc on va sortir de la crise, parce qu'on en sortira du confinement à un moment, de façon plus ou moins facile, mais avec un outil industriel et de façon un outil productif, avec des entreprises qui vont être très endettées. Or, nous étions déjà entrés dans la crise, avec une dette des entreprises, notamment en France, qui était assez élevée.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'État, il y a aussi les entreprises qui sont endettées.
Voilà, il y a deux dettes, en fait.
Sur la dette, il n'y a pas que l'État.
Il n'y a pas que l'État. Donc on va rentrer, on aura, sur la question des entreprises, et après je reparlerai de la dette de l'État, mais sur les entreprises, on va sortir donc avec beaucoup de dettes. Donc on aura, certaines vont mourir, il y aura évidemment des faillites. Là, on évite une crise de liquidité, en faisant ce pont aérien de cash. Le risque, c'est que demain, les entreprises meurent par un problème de solvabilité, qu'elles aient trop de dettes et pas assez de rentrer. Donc ça, c'est la question des entreprises. Du côté des États, évidemment, les dépenses, les déficits publics vont se creuser considérablement. Les dettes publiques vont dépasser, dans le cas de la France, très très largement le seuil des 100%. On peut être 110, 115, 120% du PIB. Là où je serais moins inquiète à court terme sur l'État que sur les entreprises, c'est qu'on a une Banque Centrale Européenne qui a dit « moi, j'achète de la dette ». Et donc, à court terme, la question de la dette est, à mon avis, bien plus inquiétante pour les entreprises que pour l'État. Mais au final, c'est toujours vous et moi qui payons, c'est le contribuable.
Flavien Levy, vous voulez ajouter quelque chose sur ce tableau qui est un peu sombre de l'avenir économique et de la sortie de cette épidémie?
Alors deux choses. La première, c'est que le choc économique est une violence inouïe. Les premières données économiques qui remontent, que ce soit le climat des affaires, que ce soit les inscriptions, par exemple, hebdomadaires au chômage aux États-Unis, 3 millions, enfin, c'est invraisemblable. Le choc est d'une violence incroyable. C'est une crise cardiaque mondiale de l'économie. Il faut bien comprendre ça. C'est vraiment sans précédent. Et l'INSEE s'est livré à un exercice difficile, mais important, c'est d'estimer ce que représenterait un mois de confinement sur notre économie. C'est évalué à 3 points de PIB. Ça sera certainement révisé par la suite. Mais on voit bien que le choc est très puissant. Il y a des entreprises qui sont menacées dans leur existence même, parce qu'effectivement, 0 euro de chiffre d'affaires, des charges, et donc si cette crise devait durer, il y a des grandes entreprises qui seraient certainement en grande difficulté. Je rajoute un point par rapport aux hypothèses évoquées par le ministre de l'Économie. Une montée au capital de l'État dans certaines entreprises, voire une nationalisation, ça ne se traduit pas automatiquement derrière par une perte, parce que qui dit nationalisation peut dire privatisation derrière. Et quand on voit aujourd'hui les valorisations de certaines grandes entreprises françaises, franchement, je pense qu'une fois que l'activité repartira, alors dans combien de temps on ne sait pas, ce sera certainement progressif. Là encore, on n'a pas de recul historique sur une crise comme celle-ci. Et donc, il faut être prudent dans les prévisions. Mais en tout cas, ça repartira bien un jour. Et le jour où ça repartira, l'État pourra de toute façon remettre sur le marché les actions des entreprises qu'il aura achetées.
C'est ce qui s'était passé avec Peugeot-Citroën. Oui. Quand l'État est venu au secours de Peugeot-Citroën en 2013, il a par la suite fait une plus-value en revendant ses actions. Allez.
Wellstone.
Tout de suite, on revient à vos questions. Problème de livraison dans les magasins, donc rayons vides, et quand ils sont réapprovisionnés, les gens stockent. Pascal et Belle, on est toujours dans ces achats paniques qui fait que la logistique court derrière la demande.
Ah oui, là, on est vraiment encore sur cette troisième semaine sur des gens qui vont acheter trop par rapport à leurs vrais besoins, en sachant qu'ils peuvent refaire des courses. Donc il y a vraiment toujours cet effet de mimétisme. Je vois que le rayon est vide et donc j'en achète. Et
un rayon vide, c'est une publicité finalement.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous allez faire vos courses et donc là en ce moment, c'est le rayon du surgelé. Donc les gens vont se dire si les autres achètent. Donc ça crée en effet des problèmes après qui sont en chaîne et de pénurie qui va être de plus en plus importante. Mais il n'y a pas de vrai risque, ça c'est important, il n'y a pas de vrai risque de ne pas pouvoir être approvisionné. Forcément, il y a peut-être certains types de produits, des marques que vous ne trouvez pas, mais évidemment, on va pouvoir manger, quelle que soit la durée du confinement.
Et après, il va falloir manger toutes les pâtes qu'on aura achetées en surstock pendant des mois mois. Bon. J'ai l'impression que les prix ont monté dans les magasins, n'est-ce qu'une impression? Flavien Levy, est-ce que le relevé du mois de mars va réserver quelques surprises?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Il peut y avoir effectivement sur certains produits très demandés une petite inflation sur les prix. Je crois que ce qui va déterminer surtout la hausse des prix à court et moyen terme, ça va être l'évolution des cours des matières premières et notamment les cours par exemple du blé. Si on parle beaucoup des pâtes, mais si les cours du blé montent encore, évidemment derrière sera une répercussion sur les prix de vente au détail.
Jean-Marc Danet, il y a un prix qui baisse et dont on ne parle pas, c'est l'essence. Oui, le gasoil est tombé à 1,25, on était près de 1,50 au début de l'année.
Il y a un événement qui est simultané mais qui n'est pas directement lié, même s'il y a un élément de lien entre les deux, mais c'est l'évolution du prix du pétrole. Donc comme l'activité industrielle est moins importante, il y a moins de demande sur le pétrole. Et en outre, il y a une sorte de guerre des prix qui a été enclenchée entre l'OPEP d'un côté, la Russie et les États-Unis d'un autre côté, l'Arabie saoudite cherchant en particulier à éliminer une partie des producteurs américains. La conséquence de ça, c'est qu'on est à des prix de barils de pétrole qui sont des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 20 ans.
Et donc plus ça, bas, hein, on est tombé à $25.
Donc on retrouve ça sur le prix de l'essence. Et en plus, un certain nombre de gens avaient annoncé que bon, en dollars, ça baissait, mais que le dollar, en tant que monnaie refuge, allait s'apprécier contre toute devise. Et donc, nous, on n'allait pas véritablement en bénéficier parce que l'euro allait se déprécier. Ce n'est pas du tout ce à quoi on assiste. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de monnaies qui dévissent, mais l'euro est plutôt stable. Donc là, quand on regardera l'indice des prix, effectivement, il n'y aura pas forcément une inflation immédiate. Deuxième élément par rapport à ça, quand même, les prix de l'agroalimentaire avaient tendance à monter régulièrement depuis quelques années. Et donc là, on va avoir la poursuite de cette pression à la hausse. C'est-à-dire, il y avait eu des hausses spectaculaires sur le prix du beurre. Et puis bon, là maintenant, ça s'est plutôt calmé. Et c'est pas impossible que le prix, effectivement, des pâtes alimentaires augmente.
Comment trouver en ce moment des petits producteurs qui seraient bien contents de vendre un peu de leur production ? Alors, je ne sais pas qui a une astuce pour les trouver, peut-être ces petits producteurs sur les marchés, les fameux marchés que finalement on va peut-être pas fermer autant.
Peut-être se renseigner auprès des mairies. En fait, les mairies qui ont fermé leurs marchés organisent en fait sur les sites internet de certaines mairies, il y a des mises en contact en fait des producteurs qui étaient sur les marchés de ces villes-là et qui peuvent.
Non, je ne pense pas, parce que ça reviendrait à alimenter, si vous voulez, cette peur de la pénurie et ça alimenterait, comme le disait en début d'émission Jean-Marc Daniel, le marché noir. Donc je pense que ce ne serait vraiment pas une bonne idée et qui ne correspond pas à la situation objective actuelle, à la fois des stocks de denrées alimentaires et aussi des prévisions de récolte qui sont plutôt bonnes, voire très bonnes pour cette année.
Quelle habitude de consommation cette épidémie va-t-elle bouleverser ? Pascal Hébel.
Alors il y a vraiment la montée du numérique, hein, on en a parlé, c'est vraiment dans ce sens que ça va aller. Je pense qu'il va y avoir un retour vers le local, où on va vraiment avoir cette notion du global qui a été remis en cause parce qu'on s'est rendu compte qu'on importait beaucoup de choses de Chine et que finalement on pourrait peut-être reproduire par exemple des médicaments, par exemple du réactif pour faire les tests, donc dans tout le domaine de la santé. Donc ça va, en tous les cas, de la part du consommateur, c'était déjà une tendance qui était très forte, mais ça va l'activer. Donc j'achète pour mon alimentation des produits
nationaux.
Voilà, c'est une façon de tenir la dragée haute à Amazon. Le drive est l'outil de reconquête pour nos acteurs français de la grande
se plaignent. Jean-Marc Daniel, vous le disiez.
Oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on crée des distorsions de concurrence en permettant. Amazon, c'est un libraire. Donc,
ils vendent le dimanche.
Et donc, effectivement, il y a deux réactions par rapport à ça. C'est-à-dire de maintenir la concurrence en considérant que ces commerces qui sont en concurrence avec Amazon peuvent s'ouvrir. Et puis, il y a une incitation indirecte vers eux pour qu'ils se numérisent, c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes outils que Amazon. Mais je pense effectivement qu'une des réflexions faites par Bruno Le Maire dans cette crise sur les libraires, qui a été saluée d'ailleurs par la presse américaine en disant on retrouve le côté culturel de la France, l'attachement à la culture, je pense que ça va au-delà. Je pense que c'est humaniste, mais aussi économiquement sensé.
Y aura-t-il d'autres options après cette crise que l'austérité ? Est-ce que ce n'est pas une question rhétorique ? Et ce n'est pas qu'une question rhétorique. Béatrice Mathieu, l'austérité, elle nous attend.
Non, mais les dettes, il faut toujours les payer. Donc, qui paye les dettes à la fin ? C'est toujours celui qui produit.
Alors, on
celui
peut la rembourser, donc, soit la payer par l'inflation. C'est-à-dire que l'argent que vous avez vaut moins. Oui, et donc, voilà. C'est un petit peu tout le monde.
Mais vous la payez. Soit vous la payez par l'impôt, soit vous la payez par l'inflation.
Le fait que votre épargne vaut moins.
Voilà, c'est ça.
On parle d'ailleurs, en parlant d'inflation, on dit quelquefois l'impôt d'inflation.
On produit moins et on indemnise plus. N'allons-nous pas vers une crise sans précédent ?
Une récession sans précédent, effectivement. Il y a un chiffre que je voudrais juste donner qui est hallucinant. Donc, l'INSEE a donné ses 3% de PIB en moins par mois de confinement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en sonnant et trébuchant ? C'est 18 milliards d'euros par semaine de confinement.
Eh ben voilà, c'est sur ce chiffre que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est l'Hebdo.